Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Il y a en France une chute de l'activité économique pour le mois de novembre, mais elle est moins brutale que lors du premier confinement au printemps. Voici ce qui ressort de la note de l'INSEE publiée hier soir, nous la détaillerons dans un instant. Vous comprendrez ensuite pourquoi Emmanuel Macron pense déjà à un déconfinement progressif. Il devrait s'exprimer la semaine prochaine. À suivre aussi le compte-rendu d'audience au procès de l'attentat du Thalys et la personnalité des trois accusés. Et puis le signe d'ouverture des Palestiniens. Ils acceptent de relancer la coopération sécuritaire avec Israël. Analyse dans moins de 10 minutes. L'INSEE table sur une baisse de 13% de l'activité économique en novembre par rapport à son niveau d'avant-crise. 13%, c'est notable, mais c'est moins que les 30% de baisse au mois d'avril lors du premier confinement. Vente en ligne plus soutenue, mais pas de ruée sur les carburants ou sur l'alimentaire. Les consommateurs se sont adaptés, Margot Delpierre.
Dès l'entrée en vigueur du premier confinement, la consommation des ménages a brutalement chuté de 30% par rapport à la même période l'an dernier. En novembre, la consommation recule aussi. L'INSEE prévoit une baisse de 15% par rapport au niveau d'avant-crise. Un peu plus de commerces sont ouverts maintenant. La vente à distance et les services de livraison se sont développés, mais ce n'est pas suffisant pour compenser toutes les pertes. Pour analyser les comportements des ménages, l'INSEE se base sur les transactions effectuées par carte bancaire et les données de caisse de plusieurs enseignes de la grande distribution. D'abord, il y a des similarités. Comme en avril, les dépenses les plus affectées sont celles en carburant, celles pour les achats dits non essentiels, les dépenses en hébergement, restauration, transport et loisirs, estime l'Institut. Mais l'INSEE remarque aussi des différences. À l'annonce du premier confinement, les consommateurs se sont rués dans les magasins alimentaires et sur le carburant, un phénomène beaucoup moins visible fin octobre. L'INSEE évoque une expérience acquise par les consommateurs qui ne s'inquiètent plus beaucoup des pénuries. Leurs craintes, ils l'ont compris, sont infondées. En revanche, la consommation de produits électroniques, notamment informatiques, se porte bien en ce moment et semble même supérieure à son niveau d'avant-crise. Une tendance qui s'explique peut-être par l'expansion du télétravail et la nécessité d'être équipé. Enfin, le reconfinement aurait provoqué une augmentation immédiate des transactions en ligne. Les ventes sur Internet sont plus dynamiques qu'au printemps. Elles semblent même avoir pris le relais des ventes physiques les premiers jours de novembre, et cela à l'approche de Noël.
Et avant les fêtes de fin d'année et en prévision d'une catastrophe économique annoncée, sachez que l'Union des métiers de l'hôtellerie-restauration se prépare à déposer dans la journée un recours devant le Conseil d'État. Recours contre le décret du 29 octobre qui entérine la fermeture de leurs établissements. L'organisation patronale des bars et des restaurants estime être victime d'une rupture d'égalité alors que la restauration collective, par exemple, elle a encore le droit de travailler. C'est pour évoquer un déconfinement progressif qu'Emmanuel Macron prendra la parole en milieu de semaine prochaine. La situation épidémique dans le pays reste préoccupante, mais elle est moins grave que ce que le président avait anticipé quand il a décidé de reconfiner les Français. C'était le 28 octobre dernier, Stéphane Robert.
Tout est parti des chiffres fournis la veille, le 27 octobre, par l'Institut Pasteur. Les scientifiques avaient alors réalisé des projections sur l'évolution prévisible de l'épidémie. Des projections très alarmantes qui prévoyaient à la mi-novembre 8000 patients Covid en service de réanimation dans les hôpitaux, ce à quoi il fallait ajouter 2000 malades non Covid. Les capacités hospitalières allaient être complètement saturées, affirmaient alors les scientifiques, et ça, quoi qu'on fasse, c'est sur la base de ces projections que le chef de l'État avait annoncé le reconfinement de la population. Aujourd'hui, mi-novembre, nous y sommes. Et on compte un peu moins de 5000 patients Covid en service de réanimation. C'est beaucoup, mais c'est moins que les 8000 anticipés. Les mesures de couvre-feu puis le reconfinement ont finalement produit un effet plus important et plus rapide que celui qu'on avait escompté. C'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron devrait s'exprimer en milieu de semaine prochaine, selon des informations que laissait fuiter hier son entourage, pour annoncer les étapes vers un déconfinement progressif. Sont évoquées la réouverture des commerces non essentiels, la réautorisation des cérémonies religieuses, la possibilité de se déplacer pour aller fêter Noël, et puis l'instauration d'un couvre-feu pour accompagner un éventuel déconfinement. Alors maintenant, que sera-t-il décidé précisément? Quand et comment? Ces questions commenceront à être évoquées en Conseil de défense ce matin. En attendant, l'exécutif prépare les esprits sur les assouplissements à venir pour essayer de calmer l'impatience des Français à l'approche des fêtes de fin d'année.
Stéphane Robert pour France Culture. Les députés ont commencé tard hier soir à étudier le projet de loi, la proposition de loi sécurité globale qui suscite des oppositions dans l'Assemblée et dans la rue. L'article 24 est notamment contesté. Il interdit, je vous le rappelle, de diffuser des images des forces de l'ordre si elles les mettent en danger. Un rassemblement était organisé devant le Palais Bourbon hier. Des heurts ont éclaté dans la soirée entre plusieurs centaines de personnes et les forces de l'ordre. Retour sur cette soirée dans le journal de 7h. D'ici là, nous revenons sur la journée d'hier au procès de l'attentat contre le Thalys. La Cour d'assises spéciale de Paris examine les personnalités des accusés. Ils sont quatre dans le box, dont l'assaillant, arrêté in extremis. Et hier, il s'agissait de se pencher sur ceux qui sont poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes et complicité. Compte rendu signé Florence Turm.
Il a 18 ans à peine quand il rencontre Abdelhamid Abaoud en Turquie. Simple voyage touristique, affirme le jeune Algérien. T-shirt Adidas, chevelure noire et fournie. Et cette rencontre avec le cerveau des attentats de novembre 2015 sera déterminante. Il me parlait souvent de la Syrie, disait qu'il y avait un État islamique avec une belle vie, que le vrai monde se trouvait là-bas. Il m'a demandé si je voulais y aller. J'ai dit oui. 5 mois sur place, formé au maniement des armes et un surnom, souligne le président, Hamza le sniper. Face à la cour, Bilal Chatra reconnaît son rôle d'éclaireur, celui qui a fourni de faux papiers et ouvert le passage en Europe à Abdelhamid Abaoud et Ayoub El-Razani, l'auteur de la fusillade du Thalys, mais en aucun cas la complicité de tentative d'assassinat qui lui est reprochée. Mohamed Bakali lui conteste tout en bloc, il est poursuivi pour avoir servi de chauffeur dans cette affaire, mais également dans le dossier des attentats du 13 novembre. Voix calme, enfance heureuse dans une famille soudée à Verviers en Belgique. De la contrefaçon, vêtements et baskets, il tire plus de 3000 euros de bénéfices par mois, en plus de ses allocations chômage. Banalise son mode de vie dans l'illégalité, conception orthodoxe de la religion, mais dit-il hostile à tout sectarisme. En prison, il a entamé des études de sociologie et visiblement convaincu l'enquêtrice de personnalité de la sincérité de sa démarche. La cour d'assises va se demander comment il en est arrivé là, conclut-elle, et lui aussi se demande comment il en est arrivé là.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo doit atterrir aujourd'hui à Tel Aviv suite de sa tournée diplomatique. Et pour l'occasion, pour marquer surtout le changement de présidence aux États-Unis, l'autorité palestinienne annonce qu'elle relance la coopération sécuritaire avec Israël, Frédéric Mettezo.
C'est le cadeau de bienvenue des Palestiniens à Joe Biden et un bras d'honneur à Donald Trump. Il y a bientôt 3 ans, quand le président américain avait reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, l'autorité palestinienne avait rompu tout dialogue avec Washington et en mai dernier, face au danger d'annexion d'une partie de la Cisjordanie par Israël dans le cadre du plan Trump, elle avait suspendu la coopération sécuritaire. En réalité, cette coopération n'avait pas complètement cessé, mais tout de même, la lutte commune contre le coronavirus avait été entravée et l'autorité palestinienne s'était privée du reversement de taxes douanières par Israël. L'annonce de ce rétablissement devrait donc détendre la situation en Cisjordanie et Mahmoud Abbas confirme ses bonnes dispositions envers Joe Biden, avec qui il a hâte de travailler. Il montre qu'il lui fait confiance. Le président palestinien fait comme si Trump n'était plus là et pas n'importe quand. À quelques heures de l'arrivée du chef de la diplomatie américaine en Israël, Mike Pompeo est annoncé dans une colonie israélienne de Cisjordanie, une provocation pour les Palestiniens qui ont donc répondu.
Pour les dernières semaines de présidence de Donald Trump encore, notez que le Pentagone a confirmé hier un retrait partiel des troupes américaines qui sont déployées en Irak et en Afghanistan. Nous terminons cette édition avec les mémoires de Barack Obama. Intitulées « Une terre promise », elles viennent de sortir chez Fayard. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ancien président américain est assez critique, Christian Chesneau.
C'est au G20 de Londres, d'avril 2009, que Barack Obama a fait ses premiers pas sur la scène internationale. L'ancien président américain dresse une galerie de portraits savoureuse de ses homologues de l'époque. Chez la chancelière allemande, Angela Merkel, il remarque des grands yeux clairs où on pouvait lire tour à tour la frustration, l'amusement ou un soupçon de tristesse. Son apparence impassible, poursuit Barack Obama, reflétait sa sensibilité pragmatique et analytique. Le contraire de Nicolas Sarkozy, une personnalité, selon Barack Obama, tout en emportement émotif et en propos hyperboliques. On aurait dit un personnage sorti d'un tableau de Toulouse-Lautrec, ajoute-t-il. Il compare même son homologue français à un coq nain avec qui la discussion est tour à tour amusante et exaspérante. Nicolas Sarkozy n'est pas le seul à en prendre pour son grade. Le tandem russe, Dimitri Medvedev et Vladimir Poutine, ressemblait autant à un syndicat du crime qu'à un gouvernement traditionnel, écrit Barack Obama. Le président brésilien Lula ne vaut guère mieux sous sa plume, il est dépeint comme un personnage aussi scrupuleux qu'un boss new-yorkais à l'époque des grandes magouilles. Pas dupe, il note que des rumeurs circulaient autour de Lula concernant du copinage et des pots de vin s'élevant à plusieurs milliards. Quant au président chinois Hu Jintao, Barack Obama le décrit comme un homme quelconque. En tout cas, lors de ce premier G20, l'ancien président américain se souvient, même ceux qui se plaignaient du rôle des États-Unis dans le monde comptaient sur nous pour maintenir le système à flot.
C'était Christian Chéneau. Les averses arrivent par la pointe bretonne ce mercredi. D'ici là, le soleil devrait briller avec 6 degrés à Lyon ce matin, 8 à Paris, 13 à Perpignan. À 6h40.